Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Est-ce que vous y croyez qu'on est déjà mi-novembre? Parce que moi j'ai du mal à le process. Genre, vraiment, j'ai l'impression que le nouvel an c'était il y a 2 mois. Que quelqu'un m'explique comment ça se fait que le temps passe si vite. Bref, c'est les fêtes, excusez-moi, mais les fêtes ont commencé le 1er novembre. Je suis en retard. Cette année, vous voyez que je ne suis pas trop dans le mood. Genre, je suis pas... Et pourtant, Dieu sait à quel point Noël, c'est ma période favorite de l'année. Mais c'est juste que, tu sais, j'ai un peu le FOMO. Cette année, je ne rentre pas en France pour les fêtes. Je vais être en Asie, du coup. Et j'avoue que... Même si j'adore l'Asie, j'adore Bali, j'adore l'Indonésie et que voilà, je vis ici donc heureusement. Mais j'avoue que pendant cette période de l'année, je préfère être en France avec ma famille, avec mes proches. Et je sais pas, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Néanmoins, j'ai 2 invités surprises qui arrivent ce dimanche chez moi. Et là, ça va être la dernière semaine de calme, la dernière semaine où je suis un peu seule, tranquille, avant la tempête et avant... un mois et demi intense de cohabitation. Ça va être très drôle et je vais en faire une série sur YouTube, donc soyez présents au mois de décembre, les gars. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé encore. Je me rends compte que je suis un peu en boucle sur ce podcast et que je parle souvent des mêmes choses. Mais récemment, bon alors pour ceux qui me suivent un peu partout, vous l'avez remarqué, mais j'ai recommencé à faire un truc que je faisais plus depuis un moment. Et ce truc, c'est la musique. Je sais que souvent j'en parle et je poste des petites vidéos par-ci par-là, mais là vraiment récemment, c'est la première fois depuis bien 7 ans que je suis consistante, enfin que ça se dit consistante en français ou pas ? Enfin que je suis régulière, pardon, régulière et que je poste un petit peu des vidéos sur Instagram toutes les semaines et tout. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas... vraiment mise dans la musique, j'ai repris vraiment à écrire des chansons, à juste, je kiffe, tu vois. J'ai acheté une guitare électrique, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai repris le piano, j'ai coupé mes ongles même, mes ongles que j'avais laissé pousser pendant 6 mois. Ça fait très princesse hein, ce que je dis, mais j'ai coupé pour pouvoir jouer du piano, enfin bref, j'ai repris la musique et ça me fait tellement de bien. Je le ressens vraiment genre dans tous les aspects de ma vie. C'est un peu comme quand tu reprends le sport après très longtemps, tu vois, et que tu sens que ça te fait du bien. Ben moi, en fait, la musique, c'est un peu mon sport pour ma santé mentale. Et je regrette, mais je regrette tellement d'avoir arrêté pendant si longtemps. Et puis, j'ai écrit dans mon journal, comme chaque jour. Enfin, j'ai écrit très régulièrement. Et d'ailleurs, vraiment, ça, c'est un truc que je vous invite à faire. Et j'en parle pas assez de ça. Le fait d'écrire à quel point ça fait du bien, même si c'est des trucs nuls à chier et que t'écris juste genre « Aujourd'hui, je me suis sentie bof, point. » Je vous jure que de l'écrire sur le papier, ça fait du bien. Peut-être pas à tout le monde, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Et j'ai essayé un peu de comprendre pourquoi j'avais arrêté. Pourquoi du jour au lendemain, j'ai arrêté de faire de la musique alors que, littéralement, depuis que j'ai 6 ans, c'était ce qui me faisait... vibrer, je déteste cette phrase, ce qui me faisait vibrer. Mais je sais pas comment l'expliquer autrement en fait. Je me réveillais le matin et je pensais qu'il y a une chose, c'était aller à la chorale, aller faire mes cours de chant. Je passais ma vie à écrire des spectacles. Dès que j'avais une caméra, je faisais des vidéos. D'ailleurs, franchement, il faut que je fasse une compilation. Comme vous pouvez le voir, mon français ne s'améliore pas. Hein. C'est de pire en pire. Mais vraiment, ça vaut le détour. Il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains et que je me ridiculise devant... Pas la France entière, parce que la France entière ne regarde pas mes vidéos, mais que je poste sur YouTube parce que c'est hilarant. J'ai littéralement une vidéo de moi à 6 ans qui danse sur du Beyoncé en faisant une chorégraphie plus ou moins douteuse. Et le monde mérite de voir cette vidéo. Mais bref... J'ai arrêté du jour au lendemain quand j'avais 16-17 ans de faire de la musique. J'ai arrêté les cours de chant. En fait, j'ai commencé les cours de chant quand j'avais 8 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à mes 17 ans, je n'ai jamais arrêté. Voilà, c'était un truc que... C'était genre... comme il y en a certains qui font de l'équitation, il y en a certains qui font de la natation, voilà. Moi, j'avais mes cours de chant toutes les semaines. Et en fait, un jour, j'ai juste décidé que j'allais arrêter, tout simplement. Et j'ai compris pourquoi j'avais arrêté. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté la musique, c'est la pression. Trop de pression, trop de stress, trop d'attentes que moi, j'avais de moi et que les autres avaient envers moi. Parce que... Il y a un moment, en fait, dans ma vie où j'ai décidé de faire de cette passion un travail. Et là, vous vous dites, Daisy, tu voulais devenir chanteuse ? Oui et non. Tu sais, quand quelqu'un dit, ouais, quand t'entends une enfant dire, ouais, mon rêve, c'est d'être chanteuse, tu t'imagines de suite, elle est fan d'Anna Montana et elle veut devenir Anna Montana. Je pense que toutes les petites filles de 8 ans l'ont dit au moins une fois dans leur vie, je veux devenir chanteuse. Sauf que... Enfin, moi, je l'ai dit de cette façon aussi hein, pendant des années, sauf qu'à un moment dans ma vie, en fait, ça a pris une autre signification parce que je me suis rendu compte que faire de la musique de son métier, ça peut être... ça veut dire plein de choses différentes. Être chanteuse, ça veut pas forcément dire devenir une star internationale, tu vois. Être chanteuse, ça peut être devenir prof de chant, ça peut être chanteuse dans des spectacles, dans des comédies musicales, ça peut être chanteuse dans des pièces de théâtre. Enfin, il y a plein... Il y a plein de personnes qui sont chanteurs dans la vie au quotidien, qui gagnent leur vie en étant chanteurs et chanteuses, mais qui ne sont pas forcément connus internationalement du grand public. Tu vois, il y a plein de chanteurs de l'ombre. Toutes les chanteuses, par exemple, qui font les voix dans les Disney, dans les films, dans les comédies musicales, c'est des gens dont on ne connaît pas forcément le nom, mais qui pourtant font de la musique leur métier. Et moi, du coup, j'ai découvert un peu ce monde quand j'avais 14 ans, allez, ouais, dans les environs de 14 ans. J'ai découvert tout ça et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui était événementiel, voilà, tout ce qui était dans la musique, dans l'événementiel, c'est-à-dire les festivals. On dit les festivals, on dit les... Oh là là, vraiment, je vous promets que bientôt, je vais prendre des cours de français. J'en ai besoin. Je ne sais pas parler ma langue, les gars. En fait, je me suis mise dans la tête que je voulais travailler un peu... Je voulais juste travailler dans la musique, voilà. Peu importe ce que j'allais faire, je savais qu'une chose, c'est que je voulais travailler dans la musique. Que ça soit dans les coulisses, que ça soit assistante, que ça soit... peu importe, je voulais faire un travail dans la musique. Et j'ai commencé du coup à voir la musique comme plus qu'une simple passion, comme plus qu'un hobby que je faisais en fait quand j'en avais envie, qui m'aidait à me sentir bien, qui aidait ma santé mentale, parce que généralement quand on a un hobby... On le fait parce qu'il nous fait du bien, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plein de hobbies différents. Par exemple, la peinture, c'est un hobby. C'est une, je vais peut-être pas dire une passion, parce que je suis pas passionnée de peinture, mais c'est un truc que j'aime faire parce que ça me détend, parce que ça me fait du bien, en fait, tout simplement, à ma santé mentale. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour la musique. Plein de petites choses comme ça. Sauf que voilà, du coup, cette passion que j'avais pour la musique, je me suis décidée à m'entraîner comme une professionnelle. Voilà, c'est comme un sportif, par exemple. Un sportif qui va faire du tennis avec ses potes et un jour, il se dit, je veux devenir tennis pro. Je veux faire de la compétition. Il va plus s'entraîner de la même façon que ce qu'il faisait quand il jouait juste au tennis entre potes, tu vois. Donc, j'ai commencé à intensifier un peu le rythme. J'ai commencé à me fixer des objectifs. J'ai commencé à passer énormément de castings. J'ai un passé avec la musique un peu particulier. J'ai un peu la flemme d'expliquer parce qu'en vrai, il y en a plein qui le savent, mais j'ai participé à des émissions hyper jeunes. J'avais genre 10-11 ans quand j'ai commencé à rentrer un peu genre dans le monde de la musique, même si bon, c'était pas vraiment... à 10, 12, 11 ans, 13 ans, même si tu gagnes de l'argent et même si tu passe à la télé, et même si tu fais des trucs avec des boîtes de production et tout, t'es un enfant, tu vois, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc pour moi, ça compte, mais c'était plus des expériences d'enfant. Mais voilà, j'étais dans un groupe de musique pour gamins, et on a fait une chanson qui s'appelle Génération Texto. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent hein, de cette période sombre de nos vies, mais c'était une chanson qui a fait quand même un buzz sur Internet et qui a été très néfaste pour ma santé mentale, pour le coup. Parce que quand t'es enfant, tu fais un peu les choses, enfin, tu sais, t'es innocent, et puis après, tu vas au collège, et au collège, tu te rends compte que tout le monde n'est pas si innocent que ça, et que tout le monde n'est pas forcément très bienveillant, et tu te fais harceler. Voilà. Donc, j'ai eu une période de harcèlement scolaire qui n'était pas hyper facile pour moi à gérer. Mais ça, c'est toute une autre, un autre sujet. Je pense que je ferai un podcast d'ailleurs sur le harcèlement scolaire et sur l'après du harcèlement scolaire. Parce que bon, je pense pas qu'il y a vraiment des enfants qui écoutent mon podcast. Peut-être que vous avez des petites sœurs ou des petits frères ou j'en sais rien. Mais le harcèlement scolaire, ça te suit pendant des années. Et il y a des séquelles derrière. Et du coup, ça serait cool que j'en parle. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je reviens au fait que vers mes 15 ans, du coup, j'ai commencé à m'entraîner comme, on va dire, voilà, pas m'entraîner, mais j'ai commencé à me mettre des objectifs et j'ai commencé à voir la musique différemment, en fait, parce que j'avais de nouveaux objectifs en tête. Et donc, pour en revenir au fait que je passais beaucoup de casting, en fait, je prenais tout ce qui venait. J'avais pas forcément de goal en particulier. Mon goal, c'était juste de me faire des expériences déjà et de vivre de ma passion, de la musique. Bon, le goal ultime, on va pas se mentir, c'était de pouvoir écrire mes chansons, de pouvoir partager mes sons, de peut-être écrire un album ou voilà, c'était un peu genre le goal, mais franchement, je prenais tout ce qui venait. J'ai même fait des auditions pour être dans la parade à Disneyland. Enfin, vraiment, je faisais tout. J'ai fait pas mal de casting pour des comédies musicales. D'ailleurs, une des expériences assez folles que j'ai vécues, j'ai chanté devant France Gall parce que je faisais un casting en fait pour justement passer, enfin, pour un rôle dans la comédie musicale qui du coup parler de la vie de France Gall, je sais plus comment s'appelait la comédie musicale, mais bref, j'étais pas du tout prête et j'arrive à Paris le jour du casting, je rentre dans la salle et en face de moi, il y avait France Gall, enfin c'était juste ouf. Et j'ai vécu plein d'expériences comme ça qui étaient trop cool, vraiment trop trop bien et c'est un monde particulier et c'est très compétitif déjà, de un, et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que moi et la compétition, c'est pas... J'ai jamais été très... J'ai jamais kiffé être en compétition. Autant quand j'étais petite, quand je jouais à des jeux de société ou peu importe, ça n'a jamais été mon délire, la compétition. Donc de un, ça a été un truc qui était un peu compliqué à vivre pour moi. Et c'était beaucoup de pression, c'était beaucoup de... Il fallait être sur le vif. Et je pense que c'est un peu dans tous les métiers artistiques, c'est un peu comme ça. Dans les métiers artistiques, il faut être là au bon endroit, au bon moment. Il y a un peu un mélange de tout. Il y a un mélange, bon, évidemment, de talent, hein, c'est clair, de travail, mais il y a aussi beaucoup de chance et beaucoup de jeux de circonstances. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, des gens qui ont du talent, il y en a des milliers, des millions. Il y a tellement, tellement, tellement de gens aujourd'hui qui ont du talent et qu'on n'entend pas, ou en tout cas qui n'ont pas vraiment de visibilité. Et il y a plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est juste que ben, ils ont peut-être pas encore été au bon endroit, au bon moment, ils n'ont pas forcément la bonne plateforme, enfin il y a plein de choses qui jouent. Et donc bref, j'ai fait des castings, j'ai fait des castings, j'ai participé à l'émission The Voice. D'ailleurs ce soir je poste une vidéo où je réagis à cette audition à l'aveugle que j'ai passée, parce que je suis tombée dessus la dernière fois et ça m'a fait tout bizarre et j'avais envie de la re-regarder. Mais tout ça c'est pas forcément très important, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, puisque c'était juste des expériences de vie. Et des choses que je suis très reconnaissante d'avoir vécues. Ce qui est important aujourd'hui et la chose dont je, enfin, sur laquelle je veux vraiment me focus, c'est ce moment en fait où tout ça c'est devenu trop pour moi. Ce moment en fait où j'ai transformé ma passion en une source d'angoisse et de stress et d'incertitude et le fait que j'avais une sorte de boule au ventre en fait. Dès que j'avais mes cours de chant qui arrivaient. Généralement, enfin, comme je vous ai dit, toute ma vie, j'ai pris des cours de chant. Pour moi, c'était mon moment, voilà, comme si j'allais à l'équitation après l'école, tu vois. C'était genre le moment que j'attendais avec impatience. J'étais trop contente d'avoir mon cours de chant. Et là, en fait, je me suis retrouvée à avoir de l'appréhension. Je stressais avant mes cours de chant. Je dormais mal le soir parce que je pensais aux auditions qui arrivaient et j'avais l'impression de pas être prête. J'avais l'impression de pas avoir le niveau. Je commençais à me comparer, chose que je n'avais jamais faite avant, parce que, et ça vraiment, c'est quelque chose que, en fait, je pense que quand t'es un artiste, et je suis pas en train de dire que je suis une artiste, même si, en soi, toutes les personnes qui font de l'art, peu importe l'art, Vous pouvez, enfin, vous êtes des artistes. Voilà, tant que tu fais de l'art et que tu kiffes ce que tu fais, il n'y a pas de ça se poser 36 000 questions, tu es un artiste. Et je pense que la comparaison, c'est un truc qui tue. Enfin, ça n'a rien à faire dans un milieu artistique. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, même pour moi, de regarder des concours de chant à la télé ou des télécrochés, parce que c'est super, super dur de comparer deux personnes, en fait, qui proposent des prestations totalement différentes. Et c'est de l'art, quoi. Et l'art, c'est très difficile à juger parce que tout le monde l'interprète différemment, tout le monde le vit différemment. Et ça, c'était un truc que je ne m'étais jamais comparé, en fait. Quand je faisais de la musique, je le faisais pour moi. Je le faisais parce que c'était un truc que je kiffais et je le faisais un peu avec l'innocence d'un enfant. Et à un certain moment, en fait, c'est inévitable parce que tu fais des castings et quand tu n'es pas prise ou quand tu es rejetée, tu te dis « Ok, qu'est-ce qui manquait ? Pourquoi cette personne, elle a été prise à la place de moi ? Qu'est-ce qu'elle a fait mieux que moi ? Qu'est-ce qui est différent ?» Et c'est des choses qui ont commencé un peu à me ronger l'esprit. Et à un moment, en fait, ça a juste été trop. Et en fait, c'est arrivé au moment où, justement, j'ai eu le plus de portes qui s'ouvraient à moi. Le moment, en fait, où, après, justement, cette émission, qui était The Voice, et qui était vraiment cool, et qui, surtout, m'a ouvert à des contacts, parce qu'en fait, c'est le milieu artistique. C'est un milieu... Je suis désolée, là, pour l'instant, je vous parle beaucoup du milieu artistique et de moi, ce que j'ai vécu, parce que c'est tout ce que je connais. Mais, en soi, ça vaut pour n'importe quelle passion que tu veux transformer en ta source de revenus, en fait. Enfin, si tu as une passion aujourd'hui et que tu veux en faire ton métier, je pense que ça vaut pour tout. Mais en tout cas, dans le monde de la musique, un truc qui est hyper important, c'est les contacts. Voilà. Les contacts, c'est un truc, c'est juste super important. Voilà, ça peut t'ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Et encore une fois, il y a encore plein de facteurs qui jouent. Mais avoir des bons contacts, c'est quelque chose qui peut être très avantageux pour toi. Et donc forcément, quand tu participes à ce genre d'émission, t'as plein d'opportunités de te faire des contacts et t'as quelques passe-droits, par exemple, pour des castings, etc. Et c'était justement, en fait, la période après l'émission, c'est la période où t'as le plus de choses qui s'ouvrent à toi. T'es invité à des événements, t'es contacté par des chefs de casting, tu t'es invité à participer à des projets, enfin bref, c'était vraiment une période où j'avais plein de choses qui se présentaient à moi, et c'est la période, en fait, où c'est devenu trop pour moi. C'est la période où j'ai eu, bon, déjà ma première dépression, chose aussi, je ferai un podcast, promis, là je me sens prête, et promis, je ferai un podcast sur cette dépression, parce que ça a été un moment très marquant de ma vie, ça a été un moment très difficile pour moi, qui n'avait absolument rien à voir avec la musique, d'ailleurs, voilà. Juste, je le mentionne, ça n'avait rien à voir avec ça. Mais je pense que ça n'a juste pas aidé. Ça n'a pas aidé, toute cette pression que je me mettais. Et je ne prenais plus de plaisir, en fait, à faire de la musique. Je me forçais, littéralement. Et ça me rend triste même d'y penser, parce qu'en fait, je le ressens encore dans mon ventre aujourd'hui, rien d'en parler, de me rappeler qu'à cette période-là, c'était la chose que tu aimes le plus faire. En fait, ça se transforme en quelque chose que tu n'as plus envie de faire. Ça se transforme en quelque chose qui t'angoisse, qui devient un stress, qui devient en fait, si je le fais pas, comment je vais faire pour vivre, parce que c'est littéralement sur ce... Enfin, je remets tout là-dessus, c'est ce que je veux faire, je me vois pas faire autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, je ne prends plus de plaisir à faire ça. Et ça a un peu tout cassé, en fait. Ça a un peu cassé ce truc où la musique, c'était mon refuge, c'était la chose qui me faisait du bien, et maintenant, c'est tout l'inverse. Et donc, j'ai pris cette décision assez drastique, cette décision qui s'est faite un peu avec le temps. Ça ne s'est pas vraiment fait d'un coup. J'ai commencé par arrêter de faire des cours de chant. J'ai commencé ensuite par arrêter de chanter, tout simplement, devant mes proches. Et je ne le faisais que pour moi. Chose qui m'avait fait du bien à l'époque, mais j'ai arrêté de me présenter à des castings. Donc, j'ai été beaucoup moins contactée pour des castings. Et au fil du temps, en fait, ça s'est fait naturellement. Et en fait, j'ai complètement arrêté de faire de la musique au quotidien. J'en faisais très, très, très rarement. Ou alors, quand j'en faisais, je me cachais carrément pour en faire, parce que j'ai développé aussi une sorte de honte. Une honte parce que j'ai toujours été super bien entourée par mes proches. Vraiment, j'ai de la chance. Ça, c'est un truc que j'ai toujours dit. J'ai une famille extraordinaire. J'ai des proches en or, en fait. Et j'ai toujours eu ce privilège, parce que c'est un privilège et que je ne crache pas sur mes privilèges. J'ai plein de privilèges, ma couleur de peau, le milieu social dans lequel j'ai grandi. Enfin bref, j'ai une tonne de privilèges, mais c'est vrai que d'avoir un environnement sain comme ça et des gens qui croient en toi en fait et qui sont là derrière toi, c'est génial et c'était génial. Mes parents ont vraiment, je pense qu'ils auraient pu se passer de tous les allers-retours à Paris et des sous investis dans des cours de chant et des instruments et des, enfin bref, tout ce qu'ils ont investi en fait en moi, et j'ai vraiment eu cette sorte de culpabilité en fait, de honte, parce que je sentais que j'avais des attentes pour moi-même, mais que mon entourage commençait à en avoir aussi. Et c'est pas dans le sens négatif où je sentais une pression de la part de mes proches, pas du tout. J'ai jamais ressenti de pression, et d'ailleurs le jour où j'ai décidé d'arrêter de faire de la musique, personne ne m'a fait de réflexion, personne ne m'a poussé, ou personne ne m'a dit c'est dommage, ou n'a essayé de me forcer à faire quoi que ce soit. Vraiment, ça a été une décision qui, je pense, a un peu déçu quand même, mais qui a été respectée. Et moi, au fond de moi, en fait, du coup, ça m'a vraiment... J'ai eu ce blocage, en fait. À partir de ce... Vraiment, il y a eu un jour où j'ai commencé à avoir un blocage et où je ne supportais plus l'idée de faire de la musique devant mes proches, de chanter d'ailleurs devant n'importe qui. Et je le faisais juste moi, toute seule, dans ma chambre. Ou alors, des fois, ça m'arrivait de me filmer vite fait et de le poster quelque part sur Internet. Et c'était le seul... c'était les seuls moments en fait où je faisais de la musique. Et en fait, je me demande si faire de sa passion son métier est une bonne chose. Vraiment, c'est une question aujourd'hui que je me pose, parce que récemment, vous savez, je vous l'ai répété, c'est bon, on en parle depuis 2 mois là, Daisy, on a compris que j'ai un peu heurté un mur, que j'ai eu une sorte un moment down là, de démotivation, de remise en question totale sur tout ce que je fais, sur les réseaux, sur le contenu que je partage, etc. Et je pense que, en fait, j'ai un peu revécu ce que j'ai vécu avec la musique. Parce que, j'ai grandi, j'ai découvert de nouvelles passions. Et je pense que tout ce qui est créatif, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui est création et tout ce que je peux créer avec mes mains, avec des outils, avec tout ce que je peux créer. D'ailleurs, c'est totalement grâce à mes parents. Mes parents, j'ai grandi là-dedans, mes parents, c'est des artistes, et pareil, il faudrait franchement que je fasse un épisode sur mes parents, il y a beaucoup trop de choses à dire sur eux, notamment mon papa, à qui je ne donne pas assez de crédit, mais mon papa c'est celui qui m'a appris à dessiner, mon papa c'est celui qui m'a introduit à tout mon registre musical, c'est lui qui m'a fait écouter mes premiers CD, mes premiers, enfin, il a été d'une influence énorme en fait dans ma vie, tout simplement. Et bref, je pense que j'ai toujours été passionnée par la création, voilà. Et je veux pas du tout que, je sais que c'est super bizarre, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de choses comme ça artistiques, j'ai l'impression que je me lance des fleurs, mais pas du tout. Genre vraiment, je ne me lance aucune fleur. Je dis juste que je suis passionnée par la création. Ça ne veut pas dire que je suis une bonne créatrice. Hein. Ça ne veut pas dire que... C'est juste que c'est un truc qui m'a toujours plu. Et je pense que j'ai toujours été attirée par le milieu artistique. Genre vraiment, j'ai un souvenir qu'à l'école, au collège, j'ai jamais trop kiffé l'école. Bon, voilà. Ça jamais. J'ai toujours été une élève un peu médiocre ou alors moyenne. Vraiment, j'étais un peu la dernière de la classe. Mais il y avait une matière que j'aimais de ouf, c'était l'art plastique, évidemment. Et donc, dès qu'il y avait un devoir à rendre, dès qu'il y avait un projet à faire à la maison, je laissais tout tomber. Alors que c'était la matière la moins importante, hein, au collège. Mais je laissais tout tomber et vraiment, je rendais un devoir, genre le truc... je me mettais à fond, tu vois, je me mettais à fond. Et du coup, bref, en grandissant, j'ai découvert plein d'autres moyens d'exprimer sa créativité, dont la vidéo. La vidéo, et donc évidemment, voilà, je me suis prise de passion pour la vidéo, la création de contenu, et j'ai commencé à en faire mon travail. Chose dont je suis hyper reconnaissante de pouvoir dire qu'aujourd'hui, mon travail, c'est de créer des choses. Voilà, peu importe ce que je crée, je peux le partager sur ma chaîne YouTube. J'ai une plateforme, j'ai des gens qui m'écoutent. Et ça, genre vraiment, je suis émotive rien que d'en parler parce que c'est juste génial. Genre vraiment là, le fait que vous m'ayez dans vos oreilles et que vous m'écoutiez le moment là où je vous parle, je trouve ça juste ouf. Je trouve ça ouf. Et le truc, c'est que... T'as ce schéma éternel en fait. J'ai commencé à faire des vidéos pour le plaisir sur YouTube sans forcément avoir une attente particulière, sans forcément avoir une audience incroyable. Puis d'un coup, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. J'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai commencé à à laisser tomber mon... Enfin, je sais pas, j'ai commencé, c'est que j'ai démissionné de mon travail, voilà, qui était community manager à l'époque. Et j'ai décidé de me mettre à fond là-dedans. Et donc, évidemment, ta passion se transforme en une sorte de... d'obligation que tu as, parce que c'est ton gagne-pain en fait, ça devient ton travail. Donc c'est un hobby, c'est quelque chose que t'aimes faire, qui t'apporte, qui avant en fait tu faisais quand t'avais du temps libre. Avant, mes vidéos, je les faisais dès que j'avais voilà un jour off, dès que j'avais du temps pour moi, c'était un truc que j'aimais faire pour le plaisir à côté. Sauf que là en fait ça devient un truc que tu dois faire, c'est pas un truc que tu peux faire, c'est un truc où tu te lèves le matin et tu dois créer du contenu parce que c'est ton travail et t'as pas d'autre choix. Et ça, je pense que ça peut résonner chez beaucoup de personnes. Ça peut résonner pour des personnes qui sont, par exemple, j'en sais rien, tu lances ton business de poterie, par exemple, voilà, ou de peu importe ton business de dessin, ou tu vas commencer à vendre tes peintures, ou même t'es passionné de pâtisserie et tu décides demain d'ouvrir une pâtisserie, tu vois, d'ouvrir un business. C'est un truc qui, je pense que c'est quelque chose qu'on... Toutes les personnes qui font aujourd'hui de leur métier et leur passion, ce qui est une chose incroyable, et c'est génial parce que pendant longtemps, je pense que le travail, ça a été vu comme quelque chose qui doit être difficile. D'ailleurs, je crois que la définition de travail sur Google, c'est genre une sorte de... Attendez, on va regarder, mais je crois que c'est hyper négatif la définition de travail. Laissez-moi regarder. Ah ouais, ok, d'accord. L'origine du mot travail, les gars, c'est pire que ce que je pensais. Ça vient du latin tripalium qui était... un instrument de torture composé de trois pieux. En gros, c'est le travail désigne en effet la souffrance, la douleur, en particulier celle que peut endurer une femme lors de l'accouchement. D'accord, bon. Voilà. L'origine du mot travail, elle est pas ouf et je pense que c'est un truc qui est un peu resté. Bon, un peu moins intense qu'au Moyen-Âge, je pense, mais c'est un truc où tu sais, quand tu vois quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait au quotidien, t'as pas l'impression qu'il travaille. Et c'est pour ça que je pense que le taf de créateur de contenu ou tous les travaux qui touchent à l'art et qui sont artistiques, ils sont pas forcément vus comme un travail de l'extérieur parce que c'est des personnes qui prennent du plaisir, entre guillemets. Même si, ben, on vient d'en parler là, c'est pas forcément que du plaisir, c'est pas parce que tu vis de ta passion que tu travailles pas et que t'es pas fatigué et que t'as pas du stress et de l'angoisse au quotidien. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que, voilà, c'est encore un peu un sujet pas tabou, mais tu vois, même moi, en fait, même moi, des fois, j'ai du mal à dire que je vais pas forcément poster sur les réseaux quand je suis fatiguée parce que je fais du montage jusqu'à 3h du matin. Je vais pas dire genre, oh mon Dieu, je suis fatiguée, je suis épuisée, je travaille trop, parce que au fond de moi, j'ai un peu ce sentiment coupable de me dire qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins et qui vont faire des choses manuelles, tu vois, qui vont aller dans les champs, les agriculteurs par exemple, ou qui vont faire des, tu vois, du travail physique qui va être vraiment fatigant physiquement et pas que psychologiquement, ou des gens qui vont se lever pour aller faire des travaux alimentaires. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, mais voilà, le genre de taf que tu fais parce que t'as pas vraiment le choix et parce que c'est pas quelque chose qui te passionne, c'est juste un taf parce que t'en as besoin pour vivre en fait. Et il y a des personnes, voilà, qui le font, et je l'ai fait moi-même, hein. Voilà, j'ai été caissière dans plusieurs magasins, voilà, parce que j'avais besoin de sous, j'étais étudiante. J'ai fait plein de taf, j'ai été mascotte dans la rue à distribuer des flyers. J'ai distribué des flyers sur des voitures le matin, entre 5h et 7h du matin, voilà. J'ai fait plein de petits tafs comme ça, tu vois, des tafs que j'étais pas passionnée, mais que je les faisais parce que j'avais pas le choix, tout simplement. Et donc, c'est un peu compliqué, tu vois, de dire que t'es fatigué, que ton travail il est dur, quand tu sais qu'à côté il y a des gens qui... Bref, vous avez compris. Vous avez compris le truc. Mais je sais plus comment j'ai commencé cette phrase. Voilà, l'importance d'organiser tes podcasts des vies. Mais j'y arrive pas, les gars, je peux pas m'en payer. Genre là, si j'ai des choses à vous dire, il faut qu'elles sortent directes. Sinon, je les oublie et j'ai vraiment du mal à organiser mes podcasts. Je m'en excuse, vraiment, je m'en excuse. Mais je me pose vraiment la question aujourd'hui de est-ce que c'est pas ça le problème ? Parce que pour en revenir là à la période que j'ai eue de doute et de peur et de je me suis clairement dit vraiment je vais laisser tomber. Encore une fois, voilà, comme j'ai laissé tomber la musique, je vais laisser tomber les réseaux, je vais laisser tomber la création de contenu parce que c'est trop en fait. Je me mets trop de pression Parce que, exactement comme ce que j'ai ressenti quand je faisais de la musique, t'as tous ces facteurs, en fait. Ces facteurs de comparaison, de te dire, ben, je suis dans un milieu qui est quand même compétitif, à pas se mentir. Enfin, même si moi, je me sens pas en compétition parce que je déteste ça et que j'ai pas envie de me sentir en compétition. Et je pense que ça tue la créativité, la compétition et la comparaison, en fait. Comparaison, compétition, je pense que c'est vraiment des choses qui sont à éviter dans tout ce qui est créatif parce que tu vas te mettre à faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait si tu ne t'étais pas comparé aux autres. Donc, il y a tous ces trucs qui rentrent en jeu. Il y a les statistiques, ça aussi. Ça, c'est un truc, voilà, quand tu vis de quelque chose, ben voilà, il y a des statistiques, le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages, tous ces facteurs, en fait, qui vont définir ta valeur. Enfin, pas ta valeur en tant qu'humain, mais ta valeur en tant... Ta valeur auprès des marques, par exemple, qui vont ensuite te payer pour ton contenu. Et ça, voilà, c'est un truc très particulier pour le milieu de l'influence, mais c'est exactement la même chose pour, par exemple, un pâtissier ou une pâtissière. Au départ, tu vas commencer à faire de la pâtisserie pour ta famille, donc tu vas juste... Tu vois, ce qui va être important, c'est... tu vas prendre du plaisir, tu vois, t'as pas forcément ce stress. Tout ce que tu veux, c'est que ta famille, elle profite et tu veux la vie de tes potes, etc. Et ensuite, quand tu vas en faire ton business et que tu vas ouvrir une boutique, les statistiques, ils vont rentrer en jeu. Combien de ventes tu fais par jour, le retour client, tout le côté marketing pour créer un nom à ton business, etc., etc. C'est des choses, en fait, qui vont venir un peu... Un peu enlever l'innocence, tu vois. T'as l'innocence et t'as la spontanéité de la chose de base, en fait. C'est quelque chose de spontané. Ta passion, en fait, un hobby, quelque chose que tu... Ouais, en fait, juste ta passion. Voilà, ta passion. C'est un truc qui est naturel pour toi, que tu fais parce que t'as envie de le faire, parce que c'est un truc auquel tu penses tout le temps, tu vois. Là, j'ai repris la musique et je retrouve ça, en fait. Je retrouve cette passion que j'avais... perdu, je peux le dire. Enfin voilà, je peux le dire, j'avais perdu cette passion que je pensais pas pouvoir retrouver un jour. Et cette passion, elle est revenue et je le sens parce que c'est vraiment un truc, genre là, si je pouvais passer ma journée à faire ça, je le ferais. Genre j'ai qu'une hâte, c'est de finir mes mails, de finir mon travail, de finir mon montage parce que je sais que derrière, je vais pouvoir aller m'enfermer dans ma petite pièce et faire de la musique. Et c'est un truc qui m'avait manqué. Et c'est un truc qui est venu un peu ce... C'est... Tu vois, par exemple, voilà, aujourd'hui, le montage vidéo, c'est toujours un truc que j'adore faire. C'est toujours un truc que vraiment, je kiffe faire ça. Et je suis trop contente de pouvoir en faire tous les jours. Mais je pense que j'ai un peu perdu cette passion. Je ne sais plus vraiment si je peux l'appeler une passion, en fait. Je pense qu'à partir du moment où quelque chose devient ton travail, je ne sais pas vraiment si tu peux toujours le considérer comme une passion. Parce que si... C'est assez délicat comme sujet, vraiment, c'est très délicat. Je pense qu'on est tous différents, mais tu vois, là, si j'avais du temps libre, j'irais pas faire du montage vidéo. Voilà, clairement. Pour moi, mais en fait, maintenant, le temps que je donne à faire du montage vidéo, je l'appelle du travail. Voilà. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je travaille, tu sais que je suis devant mon ordi à faire du montage. Alors que, à l'époque, tu m'aurais dit « qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» je t'aurais dit je chill cet après-midi, je fais du montage vidéo, tu vois, c'est deux situations totalement différentes. À l'époque, pour moi, chiller, ça voulait dire faire du montage vidéo parce que c'est un truc que je kiffais faire devant ma télé, tranquille, sans pression. Aujourd'hui, j'ai des deadlines, j'ai des dates à respecter, j'ai des previews à envoyer à des marques, etc., etc. Et je pense que voilà, encore une fois, c'est pareil, je prends l'exemple de la pâtisserie, je pense que c'est parce que j'ai la dalle que je parle de pâtisserie là depuis tout à l'heure, mais voilà, une personne qui va faire de la pâtisserie pour le plaisir, tu vas lui dire « qu'est-ce que tu fais cet après-midi ?»« Tranquille, je vais faire un gâteau devant la télé. » Quelqu'un qui en fait son travail, quand il te dit « je suis en week-end, je vais rester tranquille à la maison », crois-moi qu'il ne va pas passer le week-end à faire de la pâtisserie. Il aura envie de se reposer et de faire autre chose. Donc c'est pour ça que je me pose la question et que je me dis « est-ce que aujourd'hui, là, si par exemple, tu as un travail que... t'aimes bien, voilà, t'as un travail que t'aimes bien, t'es plutôt pas mal. Je suis pas en train de dire qu'on devrait pas faire un travail qu'on aime, pas du tout. Et je suis pas en train de dire qu'on devrait tous abandonner l'idée de faire de sa passion son travail. Je pense juste qu'on devrait bien y penser avant. Ça dépend en fait ce que tu veux faire dans ta vie, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais on a cette image parfaite et on se dit... Tu sais, quand t'aimes faire un truc, tu te dis, oh mon Dieu, si je pouvais faire ça tous les jours et gagner de l'argent, ça serait juste incroyable. Ça serait le métier parfait. Ça serait vraiment la situation parfaite. C'est mon rêve. Et il y a plein de choses, de facteurs qu'on ne prend pas en compte. Et quand ça commence à devenir réel, ben ça casse un peu la chose. Et tu te rends compte de tout ça, de l'envers un peu du décor et de toute la pression que ça engendre. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis personnel, hein, et ce que je pense, et c'est quelque chose qui peut sûrement et qui va sûrement changer avec le temps, j'en sais rien, parce que je me pose vraiment encore la question et que j'ai pas la réponse exacte. Mais j'ai un peu une idée de ce que moi je pense de ça. Et ensuite, on va lire aussi vos réponses, parce que ce matin, je vous ai posté une story en vous demandant à vous ce que vous en pensiez. Voilà. Je suis désolée, il y a mon chat qui mange derrière. Je sais pas si vous entendez ces petits scrunch scrunch. Mais Zoya, s'il te plaît, j'enregistre un podcast en fait. Vous voulez un ASMR chat ? Attendez, je vous fais un petit ASMR chat. C'est cadeau. Adorable. Ce chat est adorable. Donc, ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est bien d'avoir deux pieds sur lesquels danser. C'est bien d'avoir deux choses. C'est bien de faire un travail que tu kiffes. Je te dis pas, fais un travail que tu détestes et garde ta passion à côté. Non, je pense que c'est réaliste aujourd'hui. Il y a tellement, tellement de nouveaux métiers. Il y a tellement de... Grâce au réseau, d'ailleurs. Bon, alors maintenant, par contre, elle va lancer à litière. La meuf, tu peux t'arrêter de faire du bruit, s'il te plaît ? Ce serait adorable. Mais on a tellement de nouvelles opportunités. On a une génération qui a vraiment de la chance, je pense. Voilà, on a de la chance parce que... Vraiment, aujourd'hui, si demain, tu veux lancer ton business de stickers en ligne, tu peux le faire, tu vois, vraiment. Tu veux lancer ta marque de t-shirt imprimé ou brodé, tu peux le faire. Il y a plein de petits business comme ça qui s'ouvrent et je trouve ça génial. Donc, on a vraiment cette chance de pouvoir, d'avoir toutes ces options, ces opportunités qui s'offrent à nous grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense que c'est bien d'avoir deux choses. Par exemple, moi, j'ai abandonné l'idée de faire de la musique mon travail. Et je sais que ça peut être triste dit comme ça. Tu te dis genre, elle a abandonné son rêve, c'est trop triste. Mais c'est pas question que j'ai abandonné la musique. Je vais pas arrêter de faire de la musique, je vais pas arrêter de partager ma musique, pas du tout. Mais je sais juste que pour moi, en fait, c'est pas sain. C'est pas sain d'être dans cette constante pression, dans ce constant mindset de je veux en faire mon travail, j'ai ces objectifs et j'ai cette pression en fait sur moi parce que pour le coup ça casse tout, ça casse l'authenticité de ce que je fais et de pourquoi je le fais. Et la raison principale de pourquoi j'aime faire de la musique, c'est parce que ça me fait du bien à moi, parce que c'est un moment c'est juste un moment de plaisir en fait pour moi. J'aime écrire, j'aime composer, j'aime faire tout ça, c'est des choses que j'aime faire pour moi. Et si je peux le partager aux gens et que ça peut plaire aux autres, tant mieux, mais j'ai pas toutes les attentes que j'avais à l'époque, où justement à l'époque c'était l'avis des autres qui était important pour moi, parce que je voulais que ça plaise aux autres, je voulais en faire mon travail. Et ça c'est un truc que je vais garder plus, voilà, pour mon travail qui est actuel, qui est création de contenu, réseaux sociaux, ma marque aussi. J'ai plein de choses que je fais aujourd'hui et je suis trop contente de les faire, mais c'est un truc juste, j'ai pas dans la tête là, je veux faire de la musique mon travail. J'ai repris la musique, je poste des choses parce que j'ai envie de les poster. J'ai pas d'objectif particulier, j'ai envie de me challenger un peu, j'ai envie de partager des choses et de plus avoir peur en fait de les partager, parce que j'ai toujours ce blocage que j'essaie de dépasser et que je pense en ce moment je me dépasse vraiment beaucoup, parce que c'est très compliqué, même encore aujourd'hui, quand je poste une vidéo sur Instagram, par exemple, j'ai la boule au ventre, le lendemain matin, j'ose même pas regarder les commentaires, enfin, j'ai encore toute cette pression que j'ai, ce blocage qui reste, en fait, de 7 ans en arrière. Et donc oui, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de faire plein de choses, mais je n'ai plus cette idée en tête de me dire « je veux faire de la musique mon travail ». Et est-ce que ça arrivera un jour ? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, si ça arrive, ce sera pas en mode volontairement moi qui me suis battue pour le faire, parce que c'est juste ce qui est bon pour moi et que j'ai pas envie de revivre les choses que j'ai vécues, voilà. Et je pense que c'est une bonne option. c'est une bonne option de garder votre hobby à côté et de faire quelque chose. Voilà, si votre passion, c'est la peinture, faites de la peinture. Gardez un travail que vous aimez bien, qui vous plaît, voilà, qui vous épanouit, mais gardez cette passion à côté, partagez-la au monde si vous en avez envie, mais ne vous mettez pas de pression énorme. Parce que vraiment, la pression dans l'art et la pression dans n'importe quelle passion, je pense que c'est pas facile à gérer pour tout le monde. Il y a des personnes qui la gèrent très bien. C'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir l'avis des autres et c'est pour ça que je dis que c'est simplement mon avis à moi et que ça se trouve, j'ai tout faux. Ça se trouve, ce que je dis, c'est n'importe quoi et il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont dire « mais n'importe quoi, Daisy, pas du tout. C'est pas comme ça que moi je vois les choses. » Et je le comprends et encore une fois, je peux changer d'avis, mais il y a des gens qui, justement, ont besoin de cette pression pour se pousser. C'est la chose qui les fait vibrer, tu vois. Je pense notamment aux sportifs. Je pense que quand t'es sportif de haut niveau, il faut aimer la compétition. Je pense pas que tu peux être sportif de haut niveau et te dire « ouais, la compétition, c'est pas mon truc, moi j'aime juste faire du sport ». Je pense que dans ces cas-là, ça va être compliqué, tu vois, pour toi de réussir. Il y a des gens qui se nourrissent de la compétition. Il y a des gens qui se nourrissent de la comparaison, de la victoire, de tout ça. Et c'est pas négatif, hein. Au contraire. Si c'est un truc qui les fait vibrer, c'est génial et tant mieux. Et je pense qu'ils sont peut-être faits pour ça. Mais moi, juste, je pense qu'on est tous différents et qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes choses et qu'on gère pas tous de la même façon les émotions. Et moi, ça, c'est un truc que j'arrive pas à gérer, en fait. Le trop plein de pression et la compétition et les attentes. Dès que je sens en fait que les gens ont des attentes de moi, que moi j'ai des trop grosses attentes de moi-même et que ça me ronge de l'intérieur, je prends plus de plaisir. Je prends plus de plaisir et ça me bloque. Bon, maintenant que vous m'avez entendu blablater là et que je vous ai raconté mon passé et que je vous ai partagé mon point de vue à moi, je vais vous lire un peu ce que vous m'avez répondu sur Instagram. Et donc je vais ouvrir un peu au hasard les DM. Et donc premier DM que j'ouvre, alors la question que j'ai posée c'est... vous pensez que c'est une bonne chose de faire de sa passion son métier? Bon, j'aurais pu la formuler autrement, mais vous avez compris. Et premier DM que j'ai, c'est « Ne convient pas à tout le monde, car peut vite te dégoûter, le monde du travail est loin d'être rose. » Et donc, ça revient exactement sur ce que je vous disais juste avant, sur le fait que, bah ouais, en fait, tu peux vite te dégoûter. Et franchement, il y a des choses qui sont douloureuses dans la vie, mais je vous jure que se dégoûter d'une chose qui était votre passion et d'une chose qui était votre lumière, tu vois, ça fait mal. Genre vraiment, ça fait mal. Et c'est dur à vivre. Mentalement, en fait, c'est très compliqué à gérer. Deuxième DM que j'ouvre. Alors, ça dépend. Faut que ça reste ta passion lorsque ça devient ton taf. Si tu sens que tu apprécies moins ou plus, il faut abandonner. Alors, je pense pas que... il faut abandonner parce que je l'ai fait et je sais pas un conseil que j'ai parce que je le regrette aujourd'hui de pas avoir fait de la musique pendant autant d'années parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait pu vraiment m'aider niveau santé mentale parce que c'est un truc qui me fait du bien et je pense que j'en aurais eu bien besoin à certaines périodes de ma vie, voilà. Donc je pense pas qu'il faut abandonner, mais peut-être, voilà, comme je l'ai dit juste avant, peut-être s'enlever de la tête l'idée que il faut pas forcément en faire le centre de ta vie et qu'il y ait trop de choses qui en dépendent, en fait. Dès que ton revenu dépend de ça, de cette activité, donc ton revenu, c'est littéralement ce qui te fait vivre, ça devient... le stress est inévitable, en fait. Le stress est inévitable. Genre, c'est juste comme ça. C'est parce que, évidemment, dès que tu vas voir que ça marche un peu moins, bah, tu auras moins d'argent. Ça va impacter ton confort de vie automatiquement et ça va devenir une angoisse, tout simplement. Autre DM. Alors, oui, absolument, t'es toujours content de te lever le matin. Après, seul inconvénient, il est possible peut-être qu'on se lasse hors travail de sa passion et de faire une overdose si on pratique celle-ci en dehors de ses heures de travail, mon avis. Après, bien sûr, tout dépend de ce qu'est la passion. Et ça... ben, encore une fois, très vrai. Et ça me rassure en fait de vous lire parce que je sens que vous avez à peu près tous la même vision que moi. Mais voilà, en fait, c'est ça le truc. C'est que, en fait, dès que ça devient ton travail, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus forcément un truc que tu pratiques hors de ton travail. Et du coup, ça perd un peu de sa magie, tu vois ou pas ? Ça perd un peu de ce truc où c'était ton défouloir et ce moment pour toi. Et en fait, là, ça devient. Il faut que tu trouves un autre défouloir et un autre truc que tu fais en dehors de ta passion qui est maintenant ton travail, en fait. Alors là, on a une réponse qui est intéressante. J'avais pas pensé à ce point de vue-là, mais il y a une personne qui dit: je dirais que ça dépend si on est capable et si on a besoin de sortir la tête de son travail. Si tu es H24 en train de penser au travail et que ça te pèse, c'est pas une bonne chose, mais il y a des gens à qui ça ne dérange pas. Encore une fois, on est tous différents. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont la capacité de se déconnecter total du temps de travail et du temps à côté. Chose qui est très compliquée parce qu'il y a ce truc où quand tu es passionné, en fait, tu peux pas t'arrêter d'y penser, je pense, enfin, selon moi. Mais c'est la fin du message, moi, qui est intéressante pour moi. C'est, je reste persuadée que dans la plupart des cas, c'est une bonne chose et même nécessaire d'être passionné pour exercer certains métiers. Et c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un truc que je n'ai pas forcément abordé, mais il y a certains métiers que tu ne fais pas, en fait, si tu n'es pas passionné. Et je pense, enfin, notamment à la médecine. Genre, j'aimerais bien parler avec quelqu'un qui fait de la médecine. Est-ce que c'est... Parce que c'est pas du tout artistique. Parce que là, du coup, moi, je me suis vraiment focus sur tout ce qui était artistique, parce que c'est ce que moi, j'ai toujours voulu faire dans la vie. Mais tout ce qui est plus technique, scientifique, enfin, tous les autres milieux différents, la médecine, même si la médecine... En vrai, je pense que tout est un art. Enfin, très bizarre. La meuf part trop loin, mais... Bon, on va peut-être pas dire que, voilà, on va pas comparer un peintre avec un docteur, hein, on n'est pas sur le même délire, mais ça reste quand même un art, tu vois, la médecine. Et je me demande si c'est comme, si c'est vraiment un truc, parce que j'imagine que de te lever tous les matins en disant que tu vas aller, j'en sais rien moi, amputer des gens, désolé, j'aurais dû mettre un trigger warning, mais vous avez compris, faire de la chirurgie ou des choses qui, tu vois, où tu vois du sang, où tu sauves des vies, où tu fais face à des situations qui sont pas forcément hyper agréables et qui sont... C'est un challenge tous les jours, je pense, d'être médecin. Même c'est pas je pense, c'est un challenge tous les jours. Je pense que dans ces cas-là, il faut quand même être passionné pour faire ce métier. Parce que c'est un métier auquel tu donnes ta vie. Voilà, je pense notamment au métier où tu donnes ta vie entière pour ce travail, où tu vas du coup plus avoir la possibilité d'avoir... une vie de famille, par exemple. Il y a vraiment des travails où il y a des hommes d'affaires, par exemple, qui sont H24 en voyage ou qui sont tout le temps au bureau, ou même les médecins, en vrai, en général. Hein. C'est très compliqué pour eux d'avoir une vie de famille, tu vois. Je me demande, c'est des sacrifices que tu fais pour ton travail. Est-ce que, du coup, tu as toujours comment dire, cette notion de passion où c'est totalement différent? Je sais pas. Ah, alors, on a Mathilde qui nous dit: Besting, je suis chanteuse depuis 5 ans et demi et mon Dieu que je suis heureuse, la petite fille en moi est fière. Donc voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu peux, aujourd'hui, il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui en font leur travail. Et ça me fait trop plaisir, vraiment Mathilde, gros bisous à toi, big up, trop contente pour toi et je suis sûre que la petite fille que tu étais il y a des années te regarde avec fierté. Et voilà, on a une success story, on a un bon exemple. Voilà, c'est totalement différent pour tout le monde. Hein. Je pense que voilà, encore une fois, on est différents. Et ça fait plaisir de voir des retours positifs. Alors, il y a quelqu'un qui me dit: oui, ça te donne la motivation de continuer quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'il y a ce facteur de motivation. Je pense que, en vrai, quand tu es passionné, tu restes passionné à vie. Et tu peux perdre la passion. Par exemple, je vous disais encore une fois, la musique, j'ai perdu la passion pendant des années, mais je pense que quand tu aimes faire quelque chose, tu peux pas ne plus aimer le faire. Genre, ça restera toujours quelque chose que tu vas apprécier faire quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que, par exemple, moi, aujourd'hui, même si j'ai eu des moments où j'ai pensé à arrêter YouTube et à arrêter de faire des vidéos, j'ai arrêté peut-être aller pendant 2 semaines, 3 semaines, maximum, je crois que je me suis arrêtée pendant un mois, et encore. Et tu peux pas t'empêcher de, tu vois, enfin, t'as toujours ce truc où c'est vrai que quand t'as une passion et que t'aimes ce que tu fais, même si t'as le stress, même si t'as tout ça et tous les facteurs, voilà, tu peux pas t'empêcher de... T'as toujours ce truc où c'est beaucoup plus facile de te motiver à faire la chose que si c'était un travail complètement opposé, en fait, avec ce qui te passionne dans la vie, tu vois. Alors là, bah du coup, parfait. On a l'exemple que je vous donne depuis tout à l'heure. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, oui, pour être heureux dans son travail, c'est important de faire quelque chose qui nous passionne, mais en même temps, j'ai peur que ce ne soit plus une passion à force. Par exemple, je suis passionnée de pâtisserie et j'adore en faire pour les gens que j'aime. On m'a toujours dit de lancer un blog de cuisine ou d'ouvrir mon salon de thé, etc. Mais en faisant de ma passion mon métier, grande quantité, stress, gestion de stock, j'ai peur que ce ne soit plus une passion, mais un travail. Elle a très bien résumé ce que je dis depuis tout à l'heure. Je pense que c'est un truc qui est inévitable et je pense que quand on y est préparé, ça peut peut-être aider. Je pense qu'il faut se sentir prêt et je pense qu'il faut être préparé. Et je pense que voilà, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et j'espère que ça pourrait peut-être aider des personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui et qui ont pour optique de faire de leur passion leur travail, de juste le savoir. Parce que moi, c'était un truc que je savais pas et du coup, je suis un peu tombée de haut en fait quand je suis rentrée dans ce milieu-là. Et du coup, là, je réouvre un autre DM qui justement parle de ça. Et la personne nous dit « Perso, je pensais que oui. Ma passion, c'est la musique, les concerts et festivals. Bienvenue au club. J'ai donc fait des études en production d'événements culturels, sauf que j'ai très vite déchanté en rentrant dans ce milieu. Je me suis finalement rendu compte que je voulais garder les paillettes dans les yeux en allant à ce genre d'événements sur mon temps perso et ne pas finir blasé par tout ça. J'ai donc fait une reconversion professionnelle en architecture d'intérieur, un métier qui me plaît aussi, mais pas de la même manière, et je suis très heureuse comme ça. Voilà, voilà, des bisous. » Vraiment, témoignage génial, vraiment génial, parce que c'est ça illustre exactement ce que je vous disais avant. Et vraiment, ça me fait du bien de lire ça parce que je me rends compte que voilà, je suis pas toute seule à penser ça. Et c'est exactement la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Vraiment, exactement la même. C'est-à-dire que, pareil, j'ai voulu faire de l'événementiel. J'ai fait des stages dans... Franchement, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies, mais j'ai fait des stages dans des studios d'enregistrement. J'ai fait des stages dans des organisations d'événements, etc. Et c'est vraiment un truc que j'ai ressenti aussi, en fait. Où tu perds un peu toutes ces paillettes que t'as et tu vois l'envers du décor. Et tout devient un peu pâle, tu vois. Et tu te dis, ah, en fait, c'est ça. Et note à part, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai failli travailler pour Disneyland. Voilà. Vraiment, c'était un de mes goals. Je voulais absolument faire partie de la parade à Disney. Et du coup, j'ai passé tous les castings et tout. Ça s'est plutôt bien passé, voilà. Sauf que tu te rends compte, en fait, que derrière, c'est... Il n'y a pas toute cette magie que tu vois de l'extérieur, c'est pas du tout la même quand tu es dedans et quand tu vois à quel point c'est une charge de travail énorme, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de la chaleur, tu te retrouves, tu peux être une princesse Disney un jour, puis tu peux être Winnie l'ourson sous un costume qui pèse 20 kilos le lendemain, enfin c'est beaucoup moins glamour dans la pratique que dans ce que tu vois quoi. Donc, je vais encore ouvrir quelques messages et ensuite, je vais arrêter le podcast parce que ça va être trop long. Alors là, on a un message qui me parle beaucoup du coup parce que ça touche un peu au même milieu. Mais bonjour à toi. Pour répondre à ta question, je pense que déjà, tout dépend de l'ambition de la personne et de la chance. Je me dis, mon chien qui... À tes souhaits, Bako. À tes souhaits. Je me dis qu'il faut essentiellement les deux pour pouvoir réussir si on souhaite faire de sa passion son métier. Plus du côté artistique en tout cas. Et après, si on y arrive... Pas, ça peut être très dur sur le long terme, surtout si t'as pas de plan B. Ensuite, un métier pour moi finit presque toujours par devenir une contrainte. Ça, et je suis toujours étudiante, mon avis est sûrement pas juste. Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est dans ces moments-là qu'on c'est le plus décisif et qu'on se fait son avis et qu'on a des idées pour notre avenir, quoi. Si t'as beaucoup de chance ou t'es riche, il y a moins de soucis. Donc la contrainte du métier est moins facilement activée que lorsqu'on n'est pas riche. Ça, c'est vrai. Après, faire un métier qu'on n'aime pas est pire que faire de sa passion son métier pour moi, ce qui est aussi vrai. Perso, j'ai longtemps voulu faire de la musique, composer, écrire, etc., mon métier, et je pense que dès le début, je n'ai pas été assez ambitieuse. Pour résumer, je pense que oui, c'est une bonne chose, mais en ayant les idées claires et un plan B, et ne pas que compter sur la chance. Voilà, bisous à toi et aux passionnés. Très juste en fait tout ce qu'elle a dit. C'est vrai que bon, encore une fois, comme je disais, on vient tous d'un milieu social différent, on a tous des possibilités, des opportunités différentes, et il y a énormément, encore une fois, le facteur chance qui joue, quand, surtout dans les milieux artistiques. Mais c'est vrai que voilà, ça rejoint un peu mon idée d'avoir un plan B et d'avoir un taf que t'aimes bien, voilà, un taf qui t'épanouit. Et je pense que la phrase qu'elle dit, faire un métier qu'on n'aime pas est pire que faire de sa passion son métier, oui, Voilà, totalement, vraiment. Je ne donnerai mon... Même si des fois, voilà, des fois j'ai des moments où mon travail me met énormément de pression et des moments où j'aimerais juste partir et m'enterrer comme une autruche et qu'on, voilà, quitter les réseaux et voilà. Je sais que c'est pas un truc que j'échangerai pour autre chose et que c'est pour ça que je suis reconnaissante de ce que je fais aujourd'hui. Donc oui, voilà, oui. Bref, mes neurones commencent un peu à griller là. Hein. Tu le sens que j'ai plus grand chose à dire, j'ai plus grand chose en stock, les gars. On va lire un dernier DM et ensuite on arrête. Ok, bon, en fait, là, je viens de faire un tour un peu et je me rends compte que c'est beaucoup, beaucoup des mêmes choses qui reviennent. Donc, je vais quand même lire celui-ci. Mais du coup, la personne nous dit, alors oui et non. D'un côté, je trouve ça magique de pouvoir vivre de ce qu'on aime. C'est tellement satisfaisant, gratifiant et agréable. Mais de l'autre, ça peut gâcher une passion à mon sens. Dans le sens où ça peut nous forcer à une productivité, à nous forcer à le faire même si ça ne nous dit pas de le faire ou alors qu'on n'est pas inspiré. Et ça nous éloigne en quelque sorte de notre passion. Enfin, je pense quand même que c'est super de vivre de sa passion, mais il faut savoir s'écouter pour ne pas s'en dégoûter. Une rime incroyable et une très belle façon de finir ce podcast. Oui, totalement. Voilà, totalement. Et c'est vrai que j'avais pas forcément abordé ce truc d'inspiration et d'envie, en fait. Surtout ce truc d'envie. C'est ça, en fait. C'est ça, le truc. C'est que quand tu fais de ta passion ton travail, t'as plus ce choix de te dire « Est-ce que j'ai envie, là, maintenant, de le faire ?» Tu dois le faire. Parce que c'est un peu le principe d'un travail. Voilà. Alors, peut-être pas tous les travails. Je pense que le travail parfait existe. Je ne sais pas lequel c'est. Ça sera un travail où tu peux juste décider de ce que tu veux faire, quand tu veux le faire. Un travail où t'as pas forcément de cet aspect compétitif de dire que si tu le fais pas, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Et voilà. Donc, je ne sais pas si le travail parfait existe. Je ne pense pas, en fait, au final. Mais t'as plus vraiment ce truc de j'ai le choix de faire ou pas. C'est... Je me lève et je dois travailler parce que c'est mon travail. Et c'est un peu le principe d'un travail. Et c'est ça qui est un peu dangereux, en fait. C'est ça qui est un peu la limite à est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Est-ce que j'ai envie de franchir cette limite et de faire de cette passion que j'aime faire aujourd'hui une chose que je n'aurais plus le choix de faire ou non, ou envie ou non, ou inspirée ou non. Et encore plus dans les travaux qui sont artistiques. Et je pense que c'est un truc qui se... démocratise de plus en plus aujourd'hui. On voit l'art comme un vrai travail. Voilà, il y a plein d'artistes qui sont reconnus depuis longtemps dans plein de milieux différents et on sait que c'est un travail aujourd'hui, chose qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que ce truc dans l'art, c'est qu'il faut que tu sois inspiré, tu vois. Tu peux pas faire les choses si t'es pas inspiré. Et l'inspiration, elle ne vient pas sur commande, malheureusement. L'inspiration, tu peux la stimuler, tu peux stimuler ta créativité, tu peux faire des choses qui vont t'inspirer, mais des fois l'inspiration elle est juste pas là, en fait, simplement. Genre, des fois, combien de fois je me lève le matin en me disant je ne sais pas ce que je vais écrire aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas d'idée de vidéo, je sais pas ce que j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter, j'ai rien à peindre, j'ai rien à chanter, je voilà, enfin toutes ces choses, en fait, ça arrive, les pannes d'inspiration, et des fois c'est pas facile à vivre et des fois c'est stressant. Et je pense qu'il faut le prendre en compte avant de faire d'un art, en fait, ton travail. Et bref, on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai assez saoulé là avec tout ça. J'espère que vous aurez tiré peut-être quelque chose de ce podcast et que j'aurai peut-être résonné en vous et que, bref, prenez ce que vous avez à prendre. Voilà. Et j'ai un truc à vous annoncer. Ah oui, j'allais presque partir sans vous annoncer la grande nouvelle. Quelque chose d'incroyable qui va se passer en décembre. Désolée, je me sauce un peu là, je m'envoie des fleurs et je mets un peu des paillettes de partout. Mais j'ai eu une idée, les gars. J'ai eu une idée et cette idée, c'est, attention, roulement de tambour, les podmas. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Les podmas. Pas les vlogmas. Non. Les podmas. C'est exactement le même principe que les vlogmas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe des vlogmas, c'est une pratique qui se fait sur YouTube tous les mois de décembre. Il y a des youtubeurs un peu fous qui décident de publier un vlog par jour jusqu'à Noël, en fait. Donc, c'est un peu un calendrier de l'Avent. Et tous les jours, tu as des vidéos. Et ça, c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps sur ma chaîne YouTube et qui n'est juste pas fait pour moi. Genre, c'est pas un format C'est très compliqué pour moi de faire des vlogmas, voilà. Donc cette année, je ne le fais pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast par jour pendant tout le mois de décembre, en tout cas jusqu'au 25. Je ne sais pas si ça vous tente, mais en tout cas, moi, je suis très contente de le faire. Ça sera une série de podcasts, évidemment, qui sera totalement différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Évidemment, ce sera des podcasts qui seront beaucoup moins longs, beaucoup moins travaillés. Il n'y aura pas forcément des sujets en particulier tous les jours. Ce sera plus un peu une sorte de journaling. Genre en fait, plutôt que de me lever le matin et d'écrire dans mon journal, je vais prendre mon micro et je vais vous parler tous les jours un petit peu. Il n'y aura pas d'édit, ça va être simplement moi, brut, qui vais parler à mon micro et vous le partager. Et vous partager un peu mes pensées du quotidien pendant le mois de décembre. Il y aura peut-être des invités, il y aura peut-être des gens qui vont participer et ça va être cool. Voilà, je sais pas, j'ai envie de me lancer un petit challenge et je me dis pourquoi pas. Donc à partir du 1er décembre, commence les Podmas. Voilà, bon bah sur cette bonne nouvelle qui j'espère vous fait plaisir, je vous laisse passer un très bon mercredi, une très belle journée, une très belle fin de semaine, de très belles fêtes en perspective, je me perds un peu, et je vous fais... des gros bisous!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.